Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
Et cette enquête avec le titre de ce livre, hein, puisqu'on vous a envoyé votre titre, pardon, hein, Erwan Devez, merci d'être avec nous. Le pouvoir rend-il fou? Vous êtes plus de 80% à dire que oui. On en parle avec vous, donc vous êtes dirigeant, fondateur de Neuroperformance Consulting, consultant en neurosciences et management, auteur de ce livre, Le pouvoir rend-il fou, aux éditions Larousse. En face de vous, Frédéric Fougera, bonjour. Vous êtes communicant, essayiste, vous avez dirigé plusieurs cabinets exécutifs politiques et auteur du livre Un Dire comme n'est pas un démocrate aux éditions Bréal. Et nous avons aussi Olivier Roucan. Bonjour.
Bonjour.
Politologue, constitutionnaliste, auteur du livre En finir avec le président, édition François Bourin avec nous. Et bien sûr, vos appels au 0826 300 300. Et en majorité sur les réseaux sociaux, vous vous dites que oui, effectivement, le pouvoir rend complètement fou, quel que soit le métier, que ce soit un patron, un média ou finalement un politique.
Oui. Et le pouvoir, il y a Patrick qui résume bien, il dit « le pouvoir est grisant et certains s'en brûlent les ailes ». C'est vrai, donc c'est toute la difficulté, et tous les trois vous connaissez parfaitement en fait ce sujet. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, hein, le point de départ, hein, Cécile, de votre livre, Erwan Devez, c'est que vous avez étudié aussi ce côté scientifique aussi du cerveau. Avant de voir évidemment comment il va y avoir, comment suivra le comportement psychologique, si
je puis
dire.
Oui, parce que vous dites que finalement on commence à comprendre le fonctionnement du cerveau.
Oui, et dans ces histoires de leadership en fait et de pouvoir, j'ai l'impression que le cerveau c'est le grand absent. C'est le grand absent de la scène, c'est-à-dire que finalement le cerveau c'est notre chef d'orchestre qui préside à nos pensées, nos décisions, nos modes de coopération. Et puis finalement on se rend compte que, et moi j'y suis jour après jour, on se rend compte qu'en fait nos dirigeants ont une très faible connaissance de leur cerveau, donc des risques associés. Et vous savez, quand vous faites face à une maladie, bien le meilleur moyen de se protéger de la maladie, c'est d'en connaître les risques et les syndromes. Donc il est urgent de refaire équipe avec son cerveau et d'aller vers la compréhension, d'aller vers la connaissance de ce qui se passe concrètement dans le cerveau d'un
dirigeant. Alors, avant de voir s'il rend fou avec vous et puis nos invités également, les auditeurs qui peuvent réagir au 0826 300 300, il y a toujours cette question. Les gens de pouvoir, les chefs, est-ce que c'est inné, on est chef ou pas, ou est-ce que c'est acquis? Et là, vous apportez toutes ces précisions.
Alors c'est toujours la grande question, hein, toujours d'ailleurs avec le cerveau, la part de l'inné et la part de l'acquis. Ouais. Alors effectivement, il semblerait qu'il y ait quelques prédispositions au pouvoir, une appétence au pouvoir.
C'est quoi, un gène commun?
Alors oui, mais il faut être extrêmement prudent par rapport à cela. Il y a eu effectivement des gènes qui ont été identifiés, le RS4950, etc. Ceci étant, il ne faut jamais oublier que le cerveau, c'est un outil dynamique qui interagit. Si vous voulez, vous avez la génétique, vous avez l'environnement sur lequel vous avez plus ou moins la main, hein, c'est l'environnement socioculturel, religieux, etc. Et puis vous avez votre comportement. Eh bien, un cerveau, c'est en fait un dialogue permanent entre ces trois composantes, génétique, environnement et comportement.
Et pourtant, chez des gamins, on voit tout de suite ceux qui ont des prédispositions à diriger, quoi. Dans la cour d'école, ça commence, non ?
Oui, absolument. Il y a effectivement des prédispositions. Il y a aussi des facteurs neuro-hormonaux qui sont tout à fait évidents. On pourrait parler de la testostérone et puis de son antagoniste, l'ocytocine. Donc la testostérone qui va pousser évidemment à des comportements de domination, et l'ocytocine qui va davantage pousser à des comportements de coopération. Et petite chose intéressante, c'est vrai déjà dans le prénatal, c'est qu'une petite fille qui va arriver au monde est trois fois moins chargée en testostérone et beaucoup plus chargée en ocytocine. C'est la raison pour laquelle, par exemple...
Et l'ocytocine, définissez...
c'est l'hormone de l'attachement, de la relation à l'autre, de
en
l'amour.
En clair, on est plus cool que vous, Patrick Roger.
Non, mais c'est-à-dire que oui, ce qu'on dit dans votre livre, c'est que a priori, des prédispositions pour être meilleur manager que les hommes, avec l'ocytocine, non ?
Alors oui, et tout dépend du modèle dominant. Si nous sommes dans un modèle dominant très coercitif, aux ordres, testostéroné, les comportements ocytociniens n'auront pas beaucoup de marge de manœuvre. Si en revanche nous allons, comme c'est le cas aujourd'hui, vers un mode de leadership beaucoup plus horizontal, beaucoup plus coopératif, là effectivement, ça va devenir un atout. Donc la différence fondamentale avec le monde d'hier, c'est que les femmes vont pouvoir enfin réussir sur leurs qualités propres et non pas singer les hommes dans ce que nous avons parfois de plus, peut-être un peu primaire.
Oui, parce que je rappelle quand même, et vous le dites dans votre livre, que 120 des plus grandes entreprises en France, sur les 120, il y a quand même que 119... Enfin, il y a 119 hommes, et donc le restant sont des femmes.
Oui, la répartition est catastrophique. Ouais. Je veux dire, il faut arrêter de faire... parlons vrai. Ouais. Donc la répartition, la parité homme-femme au sein des grandes entreprises françaises est catastrophique. On est sur des
rapports... Pas qu'en France.
Ouais. Pas qu'en France. Ouais. Je ne sais pas si c'est rassurant.
Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas un mal franco-français, quoi.
Absolument. Au contraire, au niveau politique et au niveau de la politique locale, évidemment, la loi est passée par là et a introduit une parité. Que je sache, les mairies ne se sont pas effondrées depuis l'introduction de ces lois.
Deux mots avant de faire une pause, et puis Frédéric Fougera et Olivier Roucan. Est-ce que vous voyez, vous, des traits communs, justement, à ces gens qui ont le pouvoir ?
Alors, des traits communs, oui, probablement. Je voudrais juste revenir sur le fait que vous avez indiqué que dans une cour d'école, on identifiait très vite des leaders. Ouais. Et c'est vrai qu'on identifie très vite des leaders, c'est assez facile. Mais le leader n'est pas forcément le chef. On peut être parfaitement un leader et être un coéquipier du chef. Donc, même après, il y a beaucoup de choses qui font que le leader, on va probablement retrouver davantage de leaders dans les chefs, mais leader n'égale pas systématiquement
chef.
C'est vrai. C'est une chose.
Il a quand même un certain pouvoir, quoi.
Assurément un pouvoir de fédérer, ouais. d'intéresser, d'amener la lumière vers lui ou d'amener les autres vers lui. Et c'est peut-être un des points communs, pour répondre à votre question, qu'on peut déterminer.
Olivier Roucan, chez autres. Et vous, en politique, puisque vous observez aussi beaucoup ce monde politique.
Ouais. Je dirais qu'il y a des prédispositions qui ont été évoquées, mais la sociologie, la construction sociale d'un individu le fait passer à des dispositions. Mmh. Donc il y a des prédispositions contrariées. Il y a des enfants repérés dans la cour de l'école et on dit ça va être des chefs et puis ensuite ça se casse parce qu'il y a des relations sociales qui font que. Et à l'inverse, il y a des personnes qu'on repère pas ou qu'on repère très tard et qui vont avoir, parce qu'ils construisent leur leadership, ils le construisent en conscience. Ouais. Et on peut apprendre. Ouais. J'enseigne un peu le management et il y a des personnes qui... le charisme de Max Weber, lui, le définissait comme un don naturel. Mais enfin, on voyait bien dans sa sociologie qu'il indiquait que c'était une construction et qu'en conscience, il y a des stratégies, et ce n'est pas un communicant qu'on va l'apprendre, qu'il y a des stratégies tout à fait conscientes qui permettent à un charisme d'être construit.
Ouais. Et puis après, toute la question, c'est savoir si une fois qu'on a ce charisme et ce pouvoir, s'il rend fou ou pas, ou si on reste la tête froide. En quelque
sorte. Ce qu'on appelle la conquête du pouvoir et ensuite l'exercice
dans
du pouvoir.
Dans un instant, avec vous, vos appels également. Le pouvoir rend-il fou ? Vous pouvez donc réagir aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux.
Restez avec nous, 0826 300 300. On attend vos appels. Il est 9h29.
Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
9h32, on en apprend des choses sur notre cerveau ce matin, tout ça pour ceux qui en ont un. Erwan Devez est avec nous, dirigeant fondateur de Neuroperformance
Consulting.
Ouais. Et pour ce livre, Le pouvoir rend-il fou aux éditions Larousse. Et puis Olivier Roucan qui est avec nous, politologue et puis auteur de ce livre aussi. On va en finir avec le président des éditions François Bourin. Et puis il y a Frédéric Fougera qui est un communicant aussi, qui a sorti un livre qui s'appelle Un DIRCOM n'est pas un démocrate aux éditions Bréal, et vos appels 0826 300 300. Et vous vouliez rebondir, Patrick, sur le cerveau et
question. Oui, non, mais parce que c'est vrai que bien souvent, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé à travailler sur l'aspect scientifique avec les neurosciences. C'est pas qu'un livre politique sur le pouvoir rend fou, etc. Je les ai rencontrés les uns après les autres. Il y a d'ailleurs eu plusieurs livres sur le sujet depuis des années. Et la connaissance sur le cerveau aujourd'hui, on en est où de cet état de la connaissance ? Souvent, on dit, oui, on connaît que 10% de nos capacités du cerveau.
Alors, la connaissance, elle reste encore, évidemment, on est au tout début, mais on est dans une période extraordinaire, en fait. C'est l'âge d'or de la recherche fondamentale, grâce au progrès en imagerie cérébrale, en neurobiologie, etc. Donc, c'est assez extraordinaire ce que l'on découvre aujourd'hui. Il va y avoir une accélération de la connaissance avec l'intelligence artificielle, avec un certain nombre de données. Mais tout l'enjeu, et il est énorme cet enjeu, tout l'enjeu, c'est que cette connaissance fondamentale doit irriguer la société, et en particulier dans deux lieux, l'entreprise et l'école. On ne peut plus apprendre comme on apprenait il y a 20 ans, on ne peut plus enseigner de la même façon, diriger, etc., etc. Donc il faut, non pas en arrivant en disant « voilà, les neurosciences débarquent et on va vous dire le monde », ce serait totalement idiot et irréel, mais il faut se dire « ok, nous avons de la connaissance, nous savons par exemple comment mieux apprendre, comment mieux coopérer ensemble, eh bien utilisons cette connaissance ».
Oui, mais alors ça, tout le monde ne l'a pas, cette connaissance.
Absolument, c'est bien notre drame d'ailleurs, le drame de notre pays. Il faudrait des cours de cerveau dès la maternelle jusqu'aux EHPAD. Notre société se porterait
pour mieux utiliser nos capacités, quoi.
Oui, pour mieux utiliser nos capacités, pour les développer, et puis surtout, surtout aujourd'hui, pour sortir des jugements et des oppositions stériles qui nous empoisonnent la vie et qui, au passage, flinguent nos cerveaux. Ouais. Il faut quand même savoir que quand nous vivons dans un contexte anxiogène 24/24, 365 jours par an, nous abîmons notre cerveau, nous provoquons des altérations au niveau neuronal.
Ouais, et puis vous donnez des conseils, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, est-ce que, pour l'avoir observé, il y a des auditeurs qui nous appellent, mais Frédéric Fougera, et la question est assez directe, le pouvoir rend-il fou ? Est-ce que vous avez côtoyé beaucoup de dirigeants ? Est-ce que vous avez l'impression que, boum, dès qu'ils ont le pouvoir, bah, y a une forme de déconnexion et ça bascule ?
Alors, la déconnexion, c'est certainement le principal problème, mais qui arrive peut-être un petit peu en second.
Oui.
Pour répondre à savoir si le pouvoir rend fou ou pas, je dirais oui. Oui, le pouvoir, ça, parce que le pouvoir, ça isole, parce que le pouvoir, ça rend beau, et parce que le pouvoir, ça autorise.
Ouais.
Donc ça isole, parce que tout d'un coup, il faut se créer une protection. Mais cette protection, ça peut devenir donc une cour. Et les courtisans, il n'y a rien de plus dangereux pour vous déconnecter, et c'est le début. Le pouvoir, ça rend beau, parce que tout d'un coup, vous bénéficiez d'une certaine séduction. Vous savez que ce n'est pas la vôtre.
Bénéficie d'un certain charme, tout à
coup. Voilà,
on se dit, tiens,
et voilà. Et ça ne peut que vous perturber, et ça ne peut que modifier votre façon d'être et de vous comporter. Et puis le pouvoir aussi, ça autorise, c'est que tout d'un coup, c'est Coluche qui disait, des gens autorisés dans des milieux autorisés, c'est que tout d'un coup, on s'autorise des choses, de faire des choses, de dire des choses, d'avoir des comportements qu'on n'aurait peut-être pas, ou qu'on n'a pas dans une situation plus normale.
Oui. Et ça nous ramène directement à la politique, Olivier Roucan, et c'est ce qu'on reproche beaucoup aujourd'hui à Emmanuel Macron. De s'isoler, et puis...
Parlé à propos de l'Élysée, justement, de l'enfermement sur les présidents. Ce qui rend fou, en effet, c'est à partir du moment où la femme ou l'homme politique pense que... Il croit lui-même au mythe de l'homme ou de la femme providentielle. À partir du moment où il y croit, il bascule dans une forme de folie, l'oubrise, parce que il pense, en effet, qu'il est le seul finalement titulaire de ce pouvoir et qu'il puise en lui-même ou en elle-même les ressources essentielles.
Il est poussé aussi par des élections ou par du fanatisme de certains
qui l'acclament. Sa victoire est souvent le fruit du hasard, autant que de son talent. Il y a son talent, mais il y a le hasard, il y a le contexte, on l'a bien vu.
On n'est jamais élu par hasard, si ?
On n'est jamais élu par hasard. Il y a un contexte qui est de moins en moins gérable à l'avance. On le voit bien. Repensons à cette élection de 2017. Il y a un talent. Mais il y a également un contexte. Et plus vous avez du désordre, d'ailleurs, plus ce contexte est peu maîtrisable par les humains. Les interactions ne sont pas anticipées. Elles sont vécues au jour le jour. À partir de ce moment-là, si on arrive au pouvoir et qu'on oublie la part de contexte, la part sociale, qu'on ne maîtrise pas, alors on bascule dans une forme de folie où on croit qu'on est la source de tout, c'est le démiurge, c'est le créateur du monde.
Cette conquête justement du pouvoir, est-ce que finalement on perd à un moment donné le contrôle de son émotionnel ? C'est-à-dire que dans la conquête du pouvoir, et après on perd l'empathie qu'on avait dans cette phase de séduction.
Oui, absolument, ce sont deux phases qui sont distinctes. Pendant la conquête du pouvoir, vous êtes dans la séduction, vous êtes dans l'écoute, dans l'empathie, dans l'altruisme, et donc vous allez développer au niveau neuronal un certain nombre de qualités associées. Une fois que vous arrivez au pouvoir, il y a, et c'est très humain, se cacher, c'est très humain, il y a une forme de relâchement. Et en fait, il semblerait que, vous savez, nous avons tous un système neuronal miroir. Pour résumer, ce sont les neurones de l'empathie. Il semblerait que pendant la conquête, ce système est très actif et il s'effondre au moment de l'arrivée en fonction. Ce qui explique les dysfonctionnements et parfois les soucis de nos présidents et de nos hommes de pouvoir. Donc effectivement, en fait, ce que disait Frédéric tout à l'heure est très juste. En fait, le cerveau d'un homme ou d'une femme de pouvoir, il est écartelé en permanence entre de la jouissance, le plaisir, la domination, et de la souffrance, l'isolement, la paranoïa, la surcharge cognitive. Mmh. Donc il faut savoir gérer ça.
Est-ce que ce n'est pas propre à tout individu ?
Oui,
à son niveau, dialectique.
Oui, sauf que c'est exacerbé, évidemment, en haut de la pyramide.
Quand on atteint les hautes sphères, qu'on soit grand patron, politique, ou sportif, en fait, de haut niveau, qui commence aussi à avoir du pouvoir, en quelque sorte.
C'est bien l'affaire de tous, c'est ça qui est intéressant. C'est Montesquieu qui disait que c'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Nous sommes tous... passible de ces dysfonctionnements.
Oui. Frédéric Fougera, vous vouliez ajouter quelque chose. Oui.
Juste sur la fonction de la présidence de la République, il y a un excellent livre qu'on peut lire ou relire qui s'appelle « Le pouvoir et la vie » en deux tomes, qui a été écrit par Valéry Giscard d'Estaing
pour
relater cette année à l'Élysée. Et il débute son livre en expliquant que « je viens d'être élu président de la République, je suis le pouvoir », ce ne sont pas exactement ces mots, mais c'est ce qu'il dit, « je suis le pouvoir, j'ai la fonction suprême et je sors de l'Élysée ». Et là, quelqu'un m'explique que je ne peux pas sortir de l'Élysée. Et c'est le début de la déconnexion. Il accède à la fonction suprême et il n'est même pas libre de circuler comme il l'entend. Oui.
Cécile, 0826-300-300. Hein.
Oui, et nous avons René qui nous appelle de Toulouse. Bonjour René, bienvenue sur Sud Radio. Oui.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour vos invités. Écoutez, je ne vais pas vous parler du président de la République. Je voudrais évoquer l'aspect dans les entreprises et dans les sports collectifs. Oui. Bien souvent, on confond des individus qui ont la capacité à prendre rapidement les bonnes décisions et qui entraînent leur entourage avec le pouvoir permanent qui va du petit chef au grand président de multinationale, voire président de la République. C'est cela que je voulais mettre en avant dans votre excellente émission, mon cher Patrick.
Bon, bah écoutez, merci. Non mais c'est vrai, on a tendance à faire un peu cette confusion en quelque sorte, hein, Erwan.
Oui, c'est la différence entre l'autorité et l'autoritarisme.
Ouais.
Tout simplement, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'autorité, c'est celle qui fait grandir l'autre. C'est Michel Serres qui disait cela, il a bien raison. Quand nous sommes dans des relations de coercition, de pouvoir, de domination, mais c'est inutile d'attendre de l'autre qu'il s'épanouisse et qu'il soit très performant. Il aura juste une attitude très réactionnelle, donc il sera en réaction, il fera le minimum vital pour ne pas s'en prendre une le lendemain matin, mais c'est pas comme ça qu'on grandit les gens, et surtout, ce qui est très important, c'est pas comme ça qu'on arrive à un niveau de performance important. Donc il faut enfin, dans notre pays, réconcilier ces notions d'épanouissement, d'accomplissement personnel et de performance.
Oui, parce qu'on avait l'habitude, mais on a changé un peu d'époque, les patrons d'il y a quelques années, ils traçaient leur route sans se préoccuper de ce qui se passait autour d'eux, quoi, en quelque sorte. Hein. Aujourd'hui, il y a un environnement qui a complètement changé, quoi, parce qu'il y a, heureusement d'ailleurs, le harcèlement, etc. Tout est en train de basculer, quoi. On ne peut plus faire comme on le faisait auparavant, pour certains. Quoi.
Alors oui, on vit une période passionnante aujourd'hui parce qu'on a tout et son contraire. Mmh. On a encore des leaderships dans le mode d'hier, très coercitifs, aux ordres, etc. Ouais. Mais dans un certain nombre de secteurs d'activité, notamment dans les secteurs les plus concurrentiels, en fait, on est obligé de renverser la table. On est obligé de changer totalement le mode de leadership et de mode management pour une raison simple, c'est que les meilleurs recrues ne veulent pas venir dans des systèmes où c'est aux ordres et où il n'y a pas d'autonomie, etc. Ouais. Donc, on a la chance de vivre dans une période assez exceptionnelle, mais, et notamment en politique, mon voisin le dira beaucoup mieux que moi.
Olivier Roucan, ouais.
On a beaucoup de contradictions aujourd'hui. On a des modes de leadership très testostéronés, justement, qui marquent beaucoup de points.
Oui,
Est-ce que, par exemple, quand on prend les gilets jaunes aujourd'hui, parce que est-ce qu'il faut des leaders, forcément des leaders, quand on voit les gilets jaunes, il n'y a pas vraiment de chaîne de commandement. Est-ce que ça, c'est vraiment un souci? Parce que il aurait fallu un leader, par exemple, pour les gilets jaunes?
Les gilets jaunes, en fait, c'est un mouvement très intéressant, en fait, au niveau de la psychologie collective et sociale. La meilleure idée des gilets jaunes, c'est les gilets jaunes. Vous savez, quand vous avez, en fait, un uniforme, vous avez un processus de désinvidation qui se propage, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez beaucoup moins de sentiment de responsabilité personnelle. Vous pouvez donc agir, parfois agir outrageusement. Et puis, vous avez un sentiment d'appartenance qui est très fort. Et on l'a bien vu lors de la crise des Gilets jaunes, il se passait au moins autant de choses autour des ronds-points, en termes de fraternité, de solidarité, qu'au niveau purement politique. Mais tôt ou tard, effectivement, une structure aussi éclatée, aussi horizontale, a besoin
d'un leader ou d'un chef. Quoi.
Oui.
Ce qu'on disait tout à l'heure, Frédéric Fougera. Parce que vous dites que, oui, on ne peut plus raisonner comme auparavant, de manière coercitive, etc. Mais il faut quand même un minimum d'ordre, quoi, pour que ça fonctionne, non?
Et absolument. Et in fine, il faut prendre des décisions.
Oui, c'est ça. Il faut quelqu'un qui tranche, Frédéric Fougera.
La capacité de l'homme ou de la femme de pouvoir, c'est la capacité de savoir décider, d'être capable de décider, d'assumer une décision.
Ouais.
Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait cette contradiction ou finalement ce complément. d'avoir énormément de revendications, donc d'avoir quelque part une légitimité sans jugement de valeur, la légitimité de vouloir exprimer beaucoup de choses, mais finalement de ne pas savoir les hiérarchiser et de ne pas savoir les prioriser, et en parallèle de ne pas être incarné, de ne pas avoir un porte-voix, donc un décideur qui serait prendre la tête du mouvement, et donc aussi être un interlocuteur vis-à-vis des personnes auxquelles on s'adresse.
Ouais, jusqu'où la folie avec le pouvoir, on en parle jusqu'à 10h sur Sud Radio, évidemment avec vos appels dans un instant. Vous pouvez continuer de réagir. On va regarder les réseaux sociaux.
Il a faim, je crois qu'il a faim.
Je commence à avoir faim, voilà. Un lapsus.
C'est très masculin, ça. Ouais, c'est
c'est masculin, ça.
Oui, oui, c'est
de
ça.
De vouloir manger.
Oui, c'est d'être binaire.
Bon, on va voir. Est-ce que dans un instant, le pouvoir de demain va appartenir aux femmes? Question que l'on va poser également à Erwan Devez et puis Frédéric Fougera, Olivier Roucan, nos invités jusqu'à 10h.
Et vos appels au 0826 300 300, vous attend, il est 9h45.
Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
Il est 9h47, merci d'être avec nous, avec nos invités ce matin. Erwan Devez pour ce livre, hein, Le pouvoir rend-il fou, puisque c'est notre question du jour. Vous êtes en majorité à dire oui, et on comprend bien avec Frédéric Fougera et Olivier Roucan, qui sont des communicants, des politologues, qui ont l'habitude effectivement de fréquenter et des politiques et des leaders. J'ai juste, moi, une question pour vous, messieurs. Est-ce qu'on peut mettre finalement les leaders tous au même niveau? C'est-à-dire que, est-ce que les leaders, les chefs d'entreprise et les politiques, c'est le même genre de leader.
Dans l'exercice du pouvoir, sur le plan d'un certain nombre de réflexes, et notamment la volonté d'incarner le décideur, parce qu'on pourrait parler de ce modèle décisionniste aussi. On dit tout à l'heure, un chef, c'est quelqu'un qui prend des décisions, attention, pas forcément, et pas dans toutes les civilisations, mais peu importe. Mais ensuite, il y a la spécificité du secteur. Un politique, il y a quelque chose de fondamental, c'est que lui, il est habitué à rendre des comptes, parce qu'il y a la légitimité derrière son pouvoir. Un chef d'entreprise, c'est beaucoup moins son problème.
Et puis il y a la notoriété aussi.
C'est en train de le devenir. Alors la notoriété, je veux dire par là que le rendez compte, hein, le politique est visible. D'ailleurs, lorsqu'on parle du pouvoir dans nos sociétés, ça porte toujours sur le politique. On veut en savoir toujours un peu plus sur ce type de leader politique. Et on laisse tranquille, énormément tranquille, les grands chefs d'entreprise. On sait très peu de choses, finalement, sur les grands patrons de multinationales. Donc, c'est cette visibilité que les politiques savent employer, parfois difficilement, alors que le pouvoir économique reste beaucoup plus dans l'ombre.
Et il y a un bon exemple, puisque Emmanuel Macron avait dit qu'il allait rendre sa retraite, qu'il n'allait pas prendre sa retraite. Et le patron de Danone a dit, et on en a beaucoup parlé, et le patron de Danone, Emmanuel Faber, a dit qu'il allait aussi laisser sa retraite chapeau, 25 millions d'euros, et personne n'en a parlé.
Alors, il ne l'a pas seulement dit, il l'a fait.
Oui, il l'a fait.
En avril de 2019, donc il a renoncé effectivement à sa retraite chapeau en disant, je vais essayer de le citer, que ses rémunérations étaient excessives d'un autre monde et d'un autre capitalisme.
Et personne n'en a parlé.
Et voilà, personne n'en a parlé, alors que c'est un point crucial. Si nous voulons travailler sur la cohésion de notre pays, il faut aussi, de temps en temps, revenir sur des gestes qui paraissent intéressants. Le geste d'Emmanuel Faber est un geste vraiment... rare, intéressant. Peut-être pourra-t-il faire des émules, parce qu'effectivement, avoir des retraites chapeau de 25 millions à 30 millions d'euros, on peut se dire que dans le monde d'aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de l'appauvrissement des classes moyennes. Que peuvent penser les classes moyennes de retraites chapeau de 25 millions? Ce n'est plus acceptable.
Oui. Il y a Véronique qui dit c'est la soif qui est du pouvoir qui est déjà une pathologie. Elle dit, parce qu'après, il peut y avoir rabus quand on a le pouvoir, et puis c'est l'abus qui rend un peu fou. Mais est-ce que la soif, justement, d'accession comme ça, d'accéder au pouvoir, est une pathologie?
Alors, pas forcément. Il faut aussi remettre les choses un peu dans leur contexte. On peut vouloir le pouvoir pour le bien commun, pour œuvrer, pour travailler à son entreprise, à son pays, etc. Le problème, il est vraiment dans l'exercice, et surtout, il est dans l'absence de contre-pouvoir. Ouais. C'est ça, le problème.
C'est la concentration. C'est ce que dit Sam. Hein. C'est la concentration des pouvoirs qui est dangereuse.
Oui,
quoi.
Et surtout, il n'y a plus, en fait, il n'y a plus de contre-pouvoir efficient. C'est-à-dire que plus personne ne va vous dire la vérité, puisque c'est le royaume des courtisans. Oui. Première chose. Après, les fastes, l'apparat, et surtout en France, enfin, je veux dire, c'est complètement dément. Les attributs du pouvoir en France sont démentiels. Donc, déjà, le cerveau a toutes les chances de disjoncter. Mais si, en plus, vous rajoutez avec un faste et des apparats absolument d'un autre âge, eh bien, faut pas s'étonner du résultat.
Vous évoquez aussi forcément les pétages de plomb, parce que ça c'est aussi important, celui de Nicolas Sarkozy, Castop of Con, celui de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que finalement on ne vit pas dans une société tout spectacle, où il faut tout montrer, et cette instantanéité fait qu'à un moment donné, on peut perdre son sang-froid en étant un leader?
On va perdre son sang-froid, voire même perdre son cerveau. On disait tout à l'heure, il y a un besoin d'exposition, et c'est peut-être ce qui différencie le monde public du monde privé. C'est vrai que le chef d'entreprise, lui, il n'a pas nécessairement besoin de s'exposer, il n'a pas besoin nécessairement d'incarner son entreprise ou sa marque, même si ça peut être très utile. À l'inverse, le politique, lui, il doit en permanence, il pense en tout cas, devoir en permanence s'exposer, se montrer, et il pense que c'est sa seule visibilité, et donc versus sa notoriété, qui compte. Et évidemment, ça amène à plein de dérives ou à plein de débilités, parce qu'on va tout faire pour exister, tout faire pour faire du bruit médiatique, alors que ce que l'électeur attend, mais il faut savoir le doser, c'est de l'action. Et en fait, on est en permanence dans la réaction. Je réagis, je m'indigne, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Ça nécessite aucun courage ni aucune réflexion, plutôt que d'agir. Alors que quand on agit, bien sûr, il faut ensuite aussi savoir le promouvoir. Nos promos, nos échos, on dit en communication. Ouais. Il ne suffit pas de bien faire son boulot pour qu'ensuite pouvoir être apprécié. Il faut aussi le faire savoir.
Oui, Olivier, encore. Alors,
juste une petite remarque pour prolonger le raisonnement. C'est que tout à l'heure, on faisait la différence entre la conquête et l'exercice du pouvoir. Et il me semble que vous avez parlé d'instantanéité dans cette communication audiovisuelle de masse. Et ça a déstructuré les temporalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en permanence en même temps, la conquête et l'exercice du pouvoir. On ne distingue plus les deux. Hein, je veux dire. Et c'est pour ça que le fou est au pouvoir.
Les
figures de Trump, de Johnson, qui en plus incarnent sur le plan visuel...
Mais ils ne sont pas si fous que ça, en fait. Quoi.
Non, mais c'est d'où d'ailleurs la nécessité de définir le terme.
Ouais. Hein,
c'est-à-dire hors norme.
Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous entendez... C'est intéressant. Erwan Deves, qu'est-ce que vous entendez par fou, le pouvoir rend-il fou?
Alors, il y a plusieurs études qui ont montré que 10 à 20% des leaders étaient effectivement présentés des caractères un petit peu altérés au niveau cérébral, dire comme ça.
Mmh.
En fait, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un exercice outrancier de la domination. Voilà. Donc, je domine par tous les moyens, par la perversion, par la force, etc. Mais vous avez tout à fait raison de dire... Et c'est le cas de Donald Trump, par exemple, et de bien d'autres, que cette folie apparente, parfois, elle est très stratégique, elle est très construite. L'outrance fait gagner des voix. La détestation utile, par exemple, ça, c'est un concept qui est très, très important. Vous faites détester des élites. Et de sorte que le peuple, à travers vous, va se sentir détesté, méprisé. Et donc, vous gagnez les voix de ces gens-là. La détestation utile est un concept qui a été théorisé par un certain nombre de politiciens et qui est dans un contexte de forte illégitimité du pouvoir qui est très payante au niveau électoral.
Oui, est-ce qu'il n'était pas évident et gagné d'avance, hein, Frédéric Fougera? Parce que quand on veut accéder au pouvoir, on veut plaire aussi. Donc dans la conquête, on veut plaire quasiment à tout le monde, quoi, non?
Quand on veut accéder au pouvoir politique, c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises.
Même dans les entreprises, en même temps, non?
Dans l'entreprise, c'est différent. Enfin, on veut toujours plaire parce qu'on veut plaire à des actions. On veut plaire à un dirigeant, donc il y a toujours ce sentiment de séduction. Mais dans l'entreprise, il va vraiment, je pense, au moins du fait de mon expérience, ça va être directement très lié à des capacités, à une expérience, à des résultats avérés, à une compétence, à une vraie valeur qu'on va apporter à l'entreprise.
Oui.
Dans la vie politique, ça va être plutôt sur l'image. Est-ce que je suis bankable dans les médias? Est-ce que mon image est positive ou négative? Est-ce que je suis clivant pour rebondir sur ce qu'on vient de dire et donc opposer un camp à un autre? Donc c'est pas exactement le même type de séduction.
Avec une distinction aussi selon qu'on soit homme ou femme, hein, Erwan Deves. Ça, vous insistez beaucoup dans votre livre, quoi, aussi.
Oui, parce que je crois que c'est peut-être une des solutions, pas la solution, mais c'est probablement une des solutions. Arriver à une meilleure parité provoquera une modification des comportements, et notamment des comportements les plus dopaminergiques. Donc c'est vraiment le circuit de la récompense et du plaisir, hein, ces circuits très ancrés, très primaires dans le cerveau, qui nous ont sauvé la vie lors de l'évolution, mais qui nous mènent un peu la vie dure et qui nous rend esclaves de nous-mêmes aujourd'hui.
Alors, vous en parlez dans votre livre, Erwan Deves, et je vais me tourner vers vous, Olivier Roucan, de l'hypersexualité. Est-ce que ça fait finalement partie de la palette de ces leaders? Alors, peut-être que Erwan ne répondra plus facilement, mais est-ce qu'on parle souvent, effectivement, des couples illégitimes et de cette hypersexualité qui arrive avec le pouvoir?
disons qu'il y a une dimension traditionnelle du pouvoir, je veux dire au sens domination et société traditionnelle. Et il est vrai que dans ce modèle de société, le leader est aussi leader parce qu'il est en mesure de séduire et de faire preuve d'une grande générosité sexuelle, je dirais. Et cette dimension ne disparaît pas. C'est-à-dire que de ce point de vue, nous n'avons jamais été modernes. Et dans cette notion de folie, il y a aussi la vie nocturne, je veux dire. Et toute cette traînée de poudre et de pourpre qui entoure le pouvoir. C'est-à-dire qu'on aime bien que derrière cette notion de pouvoir, il y ait du licencieux.
Oui. Mais c'est parce qu'on vous séduit aussi que vous avez envie de séduire. C'est parce que j'imagine que forcément, si vous avez cette hypersexualité, c'est que vous parliez tout à l'heure, vous, de courtisans, c'est qu'il y a énormément de courtisans.
Alors, derrière, il y a aussi la logique du don et de contre-don, c'est-à-dire la logique d'échange au sens large. Mmh. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est celui qui va redistribuer un certain nombre de ressources. Et c'est là où on mélange les genres.
Hein,
on mélange les genres. Donc, c'est toute la dimension très, très traditionnelle qui ne disparaît pas. Et alors, bon, nous en savons plus et nous en saurons toujours plus sur notre cerveau. Mais il y a aussi des logiques, j'allais dire, sociales, institutionnelles, qui sont très difficiles à faire bouger, même si les connaissances évoluent. On peut aussi avoir une modestie par rapport à ça.
Merci, merci à tous d'avoir participé. Et puis à la fin, il y a dans votre livre, hein, Le pouvoir rend-il fou, il y a quelques recettes.
Hein, des bonnes pratiques.
Temps. Pas forcément pour devenir fou quand on accède au pouvoir, mais pour le bien de son cerveau.
Ah oui. En même exactement, temps,
beaucoup
pour
d'exercices.
Se protéger de tout cela.
Ce qui est quand même beaucoup de bienveillance dans ce livre.
Merci. Erwan Devez, donc votre livre qui sort aux éditions Larousse, et Frédéric Fougerat avec Un dire comme n'est pas un démocrate également. Et puis Olivier Roucan, en finir avec le président. Dans un instant.
Valérie Expert sera avec nous et puis tout au long de cette matinée. Bah après il y aura André Bercoff, après il y aura Jacques Persis, après il y aura Trina McDean et aussi
et Christophe Bordet évidemment
et
les vraies
voix.
Oui, absolument cet après-midi jusqu'à ce soir les programmes de Sud Radio et nous on vous retrouve avec grand plaisir et bonheur demain matin. Cécile.
Oui, j'adore quand vous dites ça. Allez, bisous.